Les derniers mots de l'Ancienne Alliance. La Bible est divisée dans une Nouvelle Alliance et une Ancienne Alliance. Et tout à la fin, donc juste avant l'Évangile de Matthieu, nous avons les paroles de Malachie. Ce sera peut-être la dernière fois, en tout cas pour certains temps, que nous serons ensemble dans ce livre. J'espère que vous avez pu grandir dans votre connaissance et votre appréciation pour ce prophète et pour son message. Malachie est le dernier prophète avant Jésus-Christ, avant Jean-Baptiste, pardon, qui est lui-même le dernier prophète avant le grand prophète Jésus-Christ. Il vient 400 ans avant Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et lisons ce qu'il nous dit, c'est la parole de Dieu. Sur Malachie chapitre 4, vous avez peut-être une traduction qui n'a pas de chapitre 4, alors ne paniquez pas. C'est que ça se trouve à la fin donc du chapitre 3, à partir du verset 19. Si vous n'avez pas de chapitre 4, vous savez, les chapitres ont été ajoutés plus tard et donc il y a plusieurs options. Donc, soit chapitre 3, verset 19, soit chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de Dieu. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors que Dieu nous aide dans nos réflexions. Notez ce dernier mot donc, de l'Ancien Testament, qu'il concerne un jour. Est-ce que vous avez vu cela dans la lecture? Regardez le verset 1. Car voici le jour vient. Plus tard dans le même verset, le jour qui vient. Au milieu du verset 3, au jour que je prépare. Au milieu du verset 5, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, il a pour thème le jour, un certain jour spécifique. Et ce jour est décrit comme le jour de l'Éternel, comme le jour grand et redoutable, ça c'est au verset 5, comme un jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, verset 3, et comme un jour ardent comme une fournaise, ça c'est le premier verset. Mais je crois que la grande annonce qui est faite au peuple d'Israël par le prophète dans ces versets, ce que Malachie voulait faire résonner, si vous voulez, dans les têtes et dans les cœurs du peuple, c'est ce qu'il a répété deux fois au verset 1. Car voici, le jour vient. Le jour arrive. Ce grand jour qui semble être comme un simple mirage, vous savez, qui disparaît au fur et à mesure qu'on avance, c'est toujours là, mais c'est toujours loin. Eh bien, le message du prophète, c'est que le jour arrivera bel et bien un jour. Les gens à qui Malachie prêchait avaient demandé avec impatience, au chapitre 2, verset 17, « Où est le Dieu de la justice. C'est-à-dire, où est le jour du Seigneur? Et nous savons qu'il y a des gens encore de nos jours qui disent pareil. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre parlent de personnes qui disent encore dans notre époque, où est la promesse de son avènement ou de son arrivée? C'est-à-dire, cet avènement promis, c'est pour quand? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a une continuation, mais on ne voit pas de fin, on ne voit pas de jour qui arrive. Donc il y en a qui demandaient, donc à l'époque de Malachie, où est le Dieu de la justice? Il y en a qui demandent encore, où est la promesse de son avènement? Dans le cœur de l'homme, il y a cette incrédulité qui est enracinée, qui ne veut pas croire que le jour viendra. Ne veut pas le croire. Mais le jour viendra quand même. Et quand viendra le jour, il y aura des surprises. Et donc, le premier point à souligner tout simplement que c'est une certitude. C'est une certitude. Le jour viendra. Mais après, le prophète tire notre attention sur les conséquences de sa venue. Le jour viendra, mais il y aura des conséquences. Regardez le dernier verset du chapitre 3, ou Malachie chapitre 3, verset 18, où il dit « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, Malachie 4:1, car... » Alors ce qu'il nous donne ici, c'est la raison pourquoi et même la manière dans laquelle vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant, car voici le jour vient. Voyez le lien entre cela. Le jour va nous démontrer une différence entre les personnes. C'est donc l'arrivée de ce jour qu'il faut attendre pour qu'il nous démontre la différence entre le juste et le méchant. Nous pouvons distinguer ces deux conséquences avec deux mots, je crois. Purification d'un côté et punition de l'autre. Effectivement, en lisant la description de ce jour, nous voyons la différence qui sera faite. Regardez encore chapitre 4, verset 1. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » Et il y a encore plus d'informations au verset 3 où il parle aux justes, mais il dit « Vous foulerez les méchants, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Alors c'est assez évident, non? Quel est le résultat pour le méchant au jour de l'Éternel? Tous les hautains, tous les méchants sera comme du chaume, le jour qui vient les embrasera. Ce sera la destruction complète. Donc nous voyons qu'une des résultats, c'est la punition. Les méchants seront détruits et il décrit cette destruction comme complète. Il ne laissera ni racine ni rameau, c'est-à-dire de la racine de l'arbre jusqu'à cime, tout sera détruit et il n'y aura pas même d'espoir qui revient un jour parce que quand la racine est détruite, eh bien, l'arbre ne peut jamais repousser. Il n'y a plus de chance, c'est complètement détruit. Et vous savez, nous n'aimons pas trop parler de la destruction des méchants. Ça ne fait pas très encourageant. Mais c'est un thème très commun à l'Écriture. Vous savez que Jésus parle beaucoup de l'enfer et de la destruction des méchants. Et même Malachie en a déjà parlé. Regardez au chapitre 3, verset 5, où Dieu leur parle et dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Malachie 3, 5. « Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc le méchant, vous voyez, sera jugé. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les justes. Un Dieu qui ne juge pas n'est pas un Dieu qui est bon. Donc la justice de Dieu exige que le méchant soit jugé. Mais est-ce que tout le monde sera détruit? Dieu avait dit en Malachie 3,18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Alors, nous avons vu ce qui se passe avec le méchant, mais qu'est-ce qui se passe avec le juste? Est-ce que le juste aussi sera détruit? Notez le premier mot du Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais, vous voyez cela? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Imaginez la scène un peu ici, ce veau qui sort de l'étable. Et un jeune animal, il est gardé séquestré dans son box pendant des heures, attaché, lié. Et puis, un jour, quelqu'un arrive, lui ouvre la porte et le laisse aller dans les champs. Et l'animal, il saute. Il est tellement heureux d'être libre. Et il dit, ça c'est vous. Ça c'est vous. Comme ce veau avec qui pousse ses pattes arrière dans l'air et qui court dans tous les sens, vous serez comme ça, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous aurez une certaine relation face aux méchants. Regardez le verset 3. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc ceux qui craignent l'Éternel seront guéris, ça c'est verset 2, la guérison sera sous ses ailes. Ils sont libres et joyeux, aussi verset 2, hein, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux. Et ils seront victorieux sur leurs ennemis. Verset 3, vous foulerez les méchants. Mais moi j'ai choisi le mot, on pourrait utiliser tous ces mots, mais j'ai choisi le mot purifier. Ceux qui craignent l'Éternel seront purifiés. C'est la purification quand on parle du salut des justes. Et je prends ce mot de ce qui est dit en Malachie chapitre 3 et versets 2 à 4. C'est des versets qu'on n'a pas encore regardés ensemble. On les a réservés pour ce message car ils traitent du même sujet. Donc je vous invite à regarder Malachie 3, verset 1, où il dit, voici, c'est Dieu qui parle, hein, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Puis il pose cette question, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? C'est une bonne question. Et ce qui suit nous donne la réponse à ces questions du verset 2. Quand le messager de l'Alliance, qui est nul autre que Jésus-Christ lui-même, arrive, il sera, regardez au milieu du verset 2, comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulants, c'est-à-dire comme le savon de potasse qu'utilisaient les blanchisseurs pour laver les vêtements. Le Seigneur, quand il arrive, il sera comme ce feu d'un fondeur et comme du savon qui lave. Donc, il aura le rôle que le feu du fondeur a et le rôle qu'a le savon d'un blanchisseur. Et on les utilise pour faire quoi? On utilise le feu pour purifier. On utilise le savon pour nettoyer. Vous voyez, il aura ce rôle de purification. Il viendra pour purifier. Le texte nous dit donc que quand le messager de la Nouvelle Alliance arrivera, il aura le rôle de purification. C'est exactement ce que dit Malachie 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Ça, c'est le rôle du feu du fondeur. Et il purifiera, ça, c'est le rôle du savon de potasse, les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Comme le feu sépare les saletés de l'or ou les impuretés de l'argent, et tout comme le savon est utilisé pour séparer la saleté des vêtements, le Messie fera cette œuvre de purification. Et c'est pour cela que c'est une réponse aux questions de Malachie 3.2, quand il a posé la question, mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Et la réponse, les psaumes nous donnent, c'est seulement celui qui a des mains pures. Mais on se dit, mais qui pourrait avoir des mains pures ou un cœur pur? Et la beauté et la grâce de l'Évangile est que le Christ fournit la purification nécessaire. L'or et l'argent n'ont rien à craindre du feu. C'est que la saleté qui doit le craindre. Les vêtements n'ont pas peur du savon. Et donc les véritables croyants ne devraient pas avoir peur du processus de purification du Seigneur. La purification devient le moyen par lequel il reflète la grâce de l'Évangile et reflète le Sauveur lui-même. Et notez le résultat de sa purification. C'est au verset 4, Malachie 3, verset 4. « Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Nous voyons donc que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, ce jour que l'Éternel des armées prépare sera un jour de punition pour certains et de purification pour d'autres. C'est ces deux idées. Regardez encore Malachie 4, verset 1. « Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. » Oui, mais cette fournaise, qu'est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur est comme cette fournaise. Eh bien, elle aura deux résultats. Elle purifiera certains et elle punira d'autres. La même fournaise. Donc, en plus de purification, ce jour apportera pour les justes la guérison, la liberté, la joie, la victoire. Donc, nous parlons d'un jour qui sera le plus beau et le plus merveilleux pour certains et le plus terrible et horrible pour d'autres. C'est un jour d'extrême, si vous voulez. Soit d'extrême joie et de salut et de liberté, soit d'extrême douleur, d'angoisse, de crainte, de peur. Soit de salut, soit de jugement. Soit de purification, soit de punition. Mais pour vous, chapitre 4, verset 2, « Qui craignez mon nom ?» Il dit, « Se lèvera le soleil de la justice. » Et on veut s'arrêter un instant sur cette expression. Vous le voyez au chapitre 4, verset 2, « Le soleil de la justice. » Et on veut se poser la question, quel est ou qui est ce soleil de la justice ? Et pour trouver la réponse, je voulais que vous trouviez vous-même la réponse. Nous voulons lire les paroles de Gabriel à Zacharie quand il vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc c'est en Luc chapitre 1, c'est pas en fait très loin de Malachie. Trouvez Luc chapitre 1 et verset 11. Luc chapitre 1, verset 11, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, ça sera donc le père de Jean-Baptiste, nous savons par la suite, il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Verset 13, « Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils. » Et tu lui donneras le nom de Jean. Alors notez ce que l'ange dit en Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors nous avons sans ambiguïté une référence ici, et je vous le mets sur l'écran, à Malachie chapitre 4, versets 4, versets 5 et 6, qui dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Gabriel donc fait un lien direct entre le ministère du fils de Zacharie, qui s'appellera Jean, et le ministère qu'aura celui que Malachie appelle Élie. Alors, est-ce que Zacharie a compris le lien entre la prophétie de Malachie et le ministère qu'allait avoir son fils? Ben, lisons les paroles de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au verset, dans le même chapitre, mais au verset 76. Et Zacharie parle, il prophétise ici et il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Et là, nous avons une allusion évidente à Malachie 3.1 qui dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Donc, nous savons que Zacharie a fait ce lien entre Malachie et Jean-Baptiste. Et il avait ça en tête, il avait probablement mémorisé le prophète Malachie, il l'avait par cœur. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il va dire, au verset 76, je relis, « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut pour le pardon de ses péchés. » Puis le verset 78, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Alors rappelons-nous de la question, nous avons lu Malachie 4.2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et on s'est posé la question, de quoi ou de qui parlait le prophète? Et puis nous avons vu dans un contexte où il y a plusieurs allusions directes à Malachie, Zacharie dit au verset 78, « Le soleil nous a visités du ciel. » Donc Malachie dit, « Le soleil... se lèvera le soleil de la justice, et Zacharie dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. » Je crois que c'est évident que ce soleil n'est nul autre que le Messie lui-même, Jésus lui-même, de qui Zacharie parle sans doute. Malachie a dit qu'un jour le soleil se lèvera, ce soleil de justice, et Zacharie dit, moi je vous dis qu'il arrive, qu'il est là, qu'il vient. Voyons donc les deux conséquences de la visite ou de la venue de Messie. La purification pour certains et la punition pour d'autres. Le salut pour certains et la condamnation d'autres. C'est-à-dire, quand il arrive, il y aura ces deux conséquences. Et Jean-Baptiste comprenait très bien cette double conséquence de la venue du Messie. Regardez au chapitre 3 de Luc, puisque vous y êtes, pas loin, et écoutez une partie de sa prédication. Là, c'est Jean-Baptiste maintenant grandi, qui prêche, il parle du Messie, et il dit, Luc chapitre 3, verset 9, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. » Malachie avait parlé d'une destruction qui va de la racine jusqu'aux cimes. Et Jean-Baptiste dit, « Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Le feu ici, c'est le feu du jugement. C'est cette fournaise ardente dont nous avons lu en Malachie. Et puis, sautez au verset 15 et 16 de ce même chapitre, Luc 3, 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le feu dans ce contexte ne peut être autre que le feu encore du jugement. Vous voyez ce que Jean est en train de dire? Jésus viendra et il aura ce double ministère. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc pour certains, vous aurez, il va vous baptiser du Saint-Esprit, mais pour d'autres, il vous immergera dans le feu du jugement. J'en dis, en somme, le Christ arrive et il apportera la purification à certains et la punition à d'autres. C'est comme cela que Malachie a vu les choses. C'est comme cela que Jean-Baptiste voit aussi les choses. Ne le cherchez pas, mais je vais vous lire ce que Pierre nous dit en 1 Pierre chapitre 1 verset 11, que les prophètes, il parle des prophètes et il dit les prophètes cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. C'était l'Esprit en eux qui annonçait à l'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et Pierre dit que les apôtres eux-mêmes cherchaient à découvrir les temps et les époques de tout cela, qui nous indique que les prophètes eux-mêmes ne comprenaient pas, ne voyaient pas très clairement le quand du jour du Seigneur, le comment du jour du Seigneur. Et nous voyons que Jean-Baptiste lui-même ne comprenait pas la chronologie des événements. Vous savez peut-être l'histoire de Jean-Baptiste, il se trouve plus tard en prison à cause de sa prédication de la justice, à cause de la prédication du jugement contre un roi. Et dans sa cellule, il entend que Jésus parcourt le pays en annonçant que le royaume de Dieu est venu. Ah, Jean-Baptiste est d'accord. Et que Jésus est en train de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Et regardez ensemble Luc chapitre 7. Parce que j'aimerais mettre même nos yeux sur cela. Notez Luc chapitre 7, verset 18. Et vous voyez qu'il dit « Jean fut informé de toutes ces choses. » C'est quoi ces choses? Ben, si vous regardez plus haut dans le chapitre, c'est que des guérisons que Christ est en train de faire. Il va ressusciter quelqu'un, il va guérir quelqu'un d'autre. Luc parle des miracles de Jésus. Et donc Jean, il entend parler de tous ces six miracles, mais Jean se demande une question que peut-être vous avez posée. Si le royaume est venu, où est la punition? Pourquoi suis-je toujours en prison? Où est le feu du jugement? Où est la fournaise ardente? Où est la cognée qui est mise à la racine des arbres? Où est le jugement? Et donc il entend parler de tous ces miracles et vous savez ce qu'il fait? Regardez-le, verset 19. Il en appela deux de ses disciples et il les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez un peu le tourment qui doit surgir dans son cœur, là, en prison, persécuté. Il voit qu'il va peut-être mourir à cause de sa justice et sa prédication de la justice. Et notez qu'il pose la question après avoir entendu que Jésus a fait un miracle, puis un autre miracle, puis un autre miracle. Et Jean dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Va lui demander s'il est vraiment celui qui doit venir, c'est comme ça qu'il le dit. Celui qui doit purifier et punir. Alors je vous demande, est-ce que vous avez peut-être senti la même question? Sentez-vous peut-être aussi un peu confus. Si le jour du Seigneur est venu, si le royaume est venu, où est la punition des rebelles? Jésus, n'est-il pas dit de Jésus en Jean 3,16, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui? Alors, où est le jugement? Malachi a dit que quand il viendra, il y aura du feu qui punit ainsi que le salut. Et lisons ce qui se passe là en Luc chapitre 20, chapitre 7, pardon, verset 20. Luc 7 et verset 20, arrivés auprès de Jésus, ils dirent, ben Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il continue cette œuvre de guérison. Et il leur répondit, verset 22, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » C'est tout ce qu'il dit. Et Jésus, dans ces versets, il cite des prophéties d'Ésaïe qui parlent en fait d'un aspect de son royaume. Un aspect de son royaume, c'est cet évangile qui est annoncé aux pauvres, c'est la guérison des malades. Et Jésus le fait exprès, il cite qu'une partie, si vous voulez, des prophéties. Et nous savons qu'il le fait d'une façon exprès à cause de la façon qu'il cite une autre prophétie d'Ésaïe. Alors là, je vous demande de tourner au chapitre 4. On n'est pas très loin, on reste en Luc, mais Luc chapitre 4. Et je crois que ça serait une belle chose de le voir. À partir du verset 16, Luc 4, verset 16. Et je veux vous montrer comment Jésus va citer une autre prophétie d'Ésaïe. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, comme Samuel l'a fait ce matin. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Donc, vous voyez que c'est très exprès. Il choisit le passage lui-même. Et maintenant, il va citer Ésaïe 61, versets 1 et 2. C'est verset 18 en Luc chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Alors gardez vos yeux sur la fin de sa citation en Luc chapitre 4, verset 19. Et je vais vous lire le verset en Ésaïe 61, verset 2. Je l'ai ici aussi. En Ésaïe chapitre 61, ça dit « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Jésus s'est arrêté après la première phrase de ce verset. Il n'a pas cité la deuxième phrase, la deuxième partie. Alors pourquoi la première partie de la phrase et pas la deuxième ? Eh bien, la réponse se trouve dans les paraboles où Jésus révèle ce qu'il appelle lui-même le mystère du royaume de Dieu. Mystère, quelque chose qu'il allait révéler qui n'était pas clair avant dans l'Ancien Testament. Et dans ces paraboles, Jésus va dire à maintes reprises que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup. Et il y a en fait plusieurs paraboles du royaume qui démontrent que le royaume de Dieu n'arrive pas d'un seul coup, ni dans une seule forme. Il va dire par exemple que le royaume de Dieu est un peu comme un semeur qui sème la semence dans des terres, dans des terres différentes et que ces choses poussent au fur et à mesure du temps. Il va dire que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ et après l'ennemi vient, il faut attendre la fin du temps pour voir qui est qui. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Il dit que c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il est poussé, il devient plus grand que les légumes et devient un arbre. C'est-à-dire, le royaume des cieux a plus qu'une seule forme dans le monde. Le royaume de Dieu apparaît au début, quand on le voit, comme la plus petite des semences. Mais quand vous regardez le royaume à la fin, il sera comme les plus grands des arbres. Il va dire que le royaume des cieux est semblable à du levain. Et là aussi, nous voyons qu'il ne se présente pas sous sa phase finale d'un seul coup. Il y a cette croissance qui se fait. Ailleurs, il va dire que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui attendent l'arrivée du marié. Il va dire en Matthieu 25, en fait, je veux que nous regardions Matthieu 25, il va dire que c'est le royaume de Dieu est comparé à un homme qui part en voyage. Et vous savez, il y a des serviteurs qui attendent le retour de leur maître et qui leur donnent des talents qu'ils doivent investir. Le royaume de Dieu comprend donc tout ce temps. Il y a du temps qui passe. Il y a un changement au sein du royaume. Et longtemps après, il dit, le maître de ses serviteurs revient. Et puis juste après ces paraboles, regardez en Matthieu 25 et verset 31. Parce que là, nous avons maintenant la clé des paroles de Jésus lui-même, la clé sur le salut et le jugement. Il dit, Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, c'est dans le temps futur. » Il est déjà là, non? Il est là quand il le dit. Il est venu, il est né dans l'étable, il a grandi. Et maintenant il dit, mais quand il viendra, dans sa gloire. Ah, là nous voyons une différence. Avec tous les anges, il s'assiérera sur le trône de sa gloire. Ça ne parle certainement pas de Bethléem. Nous avons vu les anges qui ont chanté ce matin, mais Jésus est né dans une étable. Cela ne parle pas d'un enseignant qui parcourt la Galilée, prêchant dans les synagogues et guérissant les malades. Ça ne parle pas de quelqu'un qui est pendu nu sur une croix romaine près de la ville de Jérusalem. Il doit y avoir pas seulement une venue, mais quoi? Mais deux venues. Et lorsqu'il revient, il viendra dans sa gloire, vous voyez ça? Il viendra avec tous les anges et il s'assiera sur le trône de sa gloire quand il reviendra. Et notez ce qui se passera. Regardez Matthieu 25, verset 32. « Toutes les nations seront assemblées devant lui et » qu'est-ce qu'il va faire? Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez !» Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est la purification, ça, c'est la guérison, la liberté, la joie, la victoire. Mais notez le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voyez, ce que Jean-Baptiste attendait arrivera. Il y aura des gens qui seront baptisés par le feu du jugement de Jésus-Christ. Il y a donc deux conséquences, mais il y a aussi, nous l'avons vu, deux venues. Une première pour sauver, et une deuxième pour juger. Ce que Malachi, de sa position, il les voyait les deux comme fusionnés, comme une seule chose ou un seul jour. Mais quand on zoome dessus et on voit de plus près, nous voyons que non seulement y a-t-il deux conséquences, mais en fait, il vient deux fois sur la terre. Et notez encore le Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. » Et rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre a dit, là je vous donne les versets, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ » qui était en eux et qui attestait d'avance, notez les deux choses ici, vous les voyez, les souffrances de Christ, et voici la deuxième, la gloire dont elle serait suivie. Et même ces prophètes comme Ésaïe et Jérémie, ils sondaient, ils cherchaient, mais ils ne voyaient pas clair, c'était pour eux un mystère, le mystère du royaume que Christ lui-même a dû révéler. Et notez cette phrase, les souffrances de Christ, vous le voyez là? Jésus a dit, quand il est venu, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il a dit en Marc chapitre 8, verset 31, qu'il commença à apprendre aux disciples que le Fils de l'homme devrait souffrir beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort même. Ça, c'est les souffrances. Mais notez maintenant cette phrase, la gloire dont elle serait suivie. Nous voyons Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Marc 14, 61, ne cherchez pas, mais Jésus est dans son dernier procès. Il va bientôt mourir. Et le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Hein, vous me regardez, c'est moi. Vous me voyez tel que je suis, maintenant, faible, brisé, comme un agneau qui va à la boucherie sans ouvrir la bouche. Mais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Je ne serai pas toujours comme vous me voyez aujourd'hui. » Jésus s'est humilié pour venir la première fois. Mais il reviendra. Apocalypse 1, 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est venu, mais il reviendra. » Écoutez les derniers mots de notre Bible, Apocalypse 22, 20. « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Et l'Église dit, « Amen, viens, Seigneur Jésus. » Jésus est venu, il y a 2000 ans, accomplir une partie de ce que Malachie a prophétisé. Mais ce que Jean a dû accepter, et qu'il n'allait pas tout faire au même temps. Et pour Jean, c'était au début une déception que Jésus ne venait pas avec la punition des pécheurs. Mais vous savez, pour nous, c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous nous trouvons aujourd'hui entre ces deux venues. Vous savez, quand on est avant les deux venues, on ne voit pas trop très la distinction entre les deux. Et un jour, nous serons après les deux venues de Jésus-Christ. Mais là, nous trouvons dans une époque où nous sommes en fait entre ces deux venues. Nous regardons en arrière vers sa première venue et nous regardons vers le futur, vers sa deuxième venue. Et nous savons qu'il est venu pour sauver avant qu'il soit venu pour juger. Mais s'il est venu une première fois, ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il reviendra une deuxième fois. et quand? Écoutez ce que Jacques nous dit, Jacques 5:8. Il dit « L'avènement du Seigneur est proche. » C'est proche. Et puis il dit, le verset juste après, Jacques 5:9. « Voici, le juge est à la porte. » Le juge est à la porte. Entendez-vous, c'est pas sur le seuil de la porte. Entendez-vous sa main sur le poignet? Ne sentez-vous pas déjà sa présence qui approche? Il arrive! Il est proche! Il est déjà à la porte! 1 Jean 2:28 dit: Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Alors je termine avec cette histoire dont Vincent a fait allusion, c'est 10 vierges en Matthieu 25. Et nous savons que 5 vierges étaient prêtes et pouvaient donc entrer avec le marié dans la salle des noces, mais nous savons aussi que 5 vierges n'étaient pas prêtes. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient à la dernière minute, mais elles ont appris que la préparation de la dernière minute est une préparation qui arrive trop tard. On ne se prépare pas à la dernière minute. On n'attend pas qu'il entre dans la salle pour nous préparer. C'est une préparation qui vient trop tard. Et rappelez-vous de ce qu'elles ont entendu dire le maître: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et il y a eu cette séparation entre les 10 vierges. 5 à l'intérieur et 5 à l'extérieur. Et quelle est l'application? Eh bien, si vous êtes toujours en Matthieu 25, vous le voyez, Jésus le donne lui-même au verset 13, à la fin de cette histoire. Matthieu 25, verset 13, il dit: « Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La seule chose qu'on sait par rapport à sa venue, c'est qu'on ne le sait pas. On ne sait pas l'heure. Alors nous terminons en relisant les paroles de Malachie. Car voici, le jour vient. Malachie 4, verset 1. Ardent comme une fournaise. Et cette prophétie, nous avons vu, a été accomplie partiellement. Mais nous attendons toujours le jour final. Mais quand ce jour arrive, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. On veut dire avec Jean d'Apocalypse, il n'y aura plus de deuil, plus de tristesse, plus de larmes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Hérob pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'une malédiction ou d'interdit. Et nous voyons dans ces deux derniers versets de l'Ancien Testament que le ministère du prophète comme Élie et le ministère du messager de l'Alliance qui est Jésus-Christ lui-même provient, voyez ça, avant que le jour de l'Éternel arrive. Et cela comme un acte de grâce. Nous voyons la grâce ici, en fait. Sachant ce que nous savons, nous pouvons reculer le voir parce qu'il dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ça, c'est la grâce qui était le ministère de Jean-Baptiste, était une grâce pour nous. Le ministère de Jésus-Christ est une grâce pour nous. Alors je dis avec 2 Corinthiens 6, 1 et 2, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Pourquoi ? Parce que le jour vient ardent comme une fournaise. Et quand ce jour arrive, il sera trop tard. Aujourd'hui sera peut-être le dernier jour. Je ne sais pas, mais vous ne savez pas non plus. Et vous dites, mais je crois que ce sera... Mais votre, vous devinez comme moi. On ne sait pas. Demain sera peut-être trop tard. Le message de Malachie est donc le message pour nous aujourd'hui. Préparez-vous. Prions ensemble. Juste avant de prier avec nos cœurs, nos têtes baissées, nos cœurs vraiment ouverts devant le Seigneur. Je veux, avec Jean-Baptiste, avec Malachie, avec Jésus lui-même, vraiment vous supplier de vous repentir et de venir au seul Sauveur qui peut vous sauver lorsque ce jour arrive. Le monde ne veut pas le croire, mais il viendra un jour. Mais aujourd'hui est le jour du salut pour vous. N'endurcissez pas vos cœurs. Comment fait ceux qui ont vu tous les miracles qu'avait fait Moïse? C'est des gens qui ont vu plein de miracles et ils ont endurci leur cœur. Et il se peut que nous ayons des jeunes ou des moins jeunes qui ont vu plein de choses ici, même à l'église, mais qui ont des cœurs endurcis. Je crains pour vous. Je vous demande de ne pas laisser encore un jour passer sans vous préparer pour ce jour. Seigneur, nous te confions cette parole et nous te demandons par ton esprit de la faire pénétrer dans nos cœurs. Qu'il n'y ait aucune personne ici qui la prend à la légère. Qu'il n'y ait pas de terrain aussi où le diable peut venir et enlever la semence avant que ne passe même l'heure qui suit cette réunion. Veuille, Seigneur, faire pénétrer cette parole au plus profond de nous-mêmes, pour que nous puissions voir dans chacune de nos vies les fruits de la repentance, que nous soyons tous parmi ceux qui connaissent le salut, la joie, la victoire. Car en toi, nous n'avons pas à craindre ce jour, mais nous pouvons dire, viens, viens Seigneur Jésus. Nous l'attendons avec impatience. Mais merci pour cette heure de grâce. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.